Vous êtes sur RTL.
Sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo? Nous sommes avec Charles. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Que répondez-vous?
Eh bien, c'est simple. Si ce type est utile à la science, alors pourquoi on s'en sépare?
C'était pas vraiment la réponse que j'attendais. C'était votre avis, moi, qui m'intéressait. Mais vous allez nous le donner dans une seconde. Amandine Bégaud, le rappel des titres.
Et à la une, cette situation qui s'arrange, une nouvelle encourageante dans la lutte contre le Covid. On est sur la bonne voie, c'est ce qu'a déclaré ce matin Jean Castex, le Premier ministre, lors d'un déplacement dans le Bas-Rhin. Il faut dire que le nombre de cas de contamination est en baisse. Même chose pour le R, le fameux taux de reproduction. L'actualité, c'est aussi Emmanuel Macron attendu à Marseille. Ça, ce sera pour demain. Le chef de l'État pose ses valises pour 3 jours et devrait annoncer un vaste plan, plusieurs milliards d'euros pour lutter contre le trafic de drogue. Et puis c'est l'une des images du jour, image qui entrera sans doute dans les livres d'histoire. Le dernier soldat américain a quitté cette nuit Kaboul. L'image a fait le tour du monde au même moment des tirs de victoire en Afghanistan. La défaite des Américains est une leçon pour d'autres envahisseurs et pour le monde. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole des talibans. Petit coup d'œil à notre météo avec vous Peggy, et plus de soleil au nord.
Oui, en tout cas plus que ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de
c'était
nuages.
C'était pas difficile,
ce matin.
J'ai envie
oui,
de vous
en
dire.
Même temps, c'est vrai. Ça
veut mais pas c'est dire plus que... lumineux que d'habitude. Hein.
Voilà, c'est quand même plus lumineux. Vous avez tout dit, Amandine. Il y a de belles éclaircies malgré les nuages qui sont nombreux, c'est vrai, au nord, entre le Nord-Bretagne, l'Île-de-France, les frontières du nord et jusqu'aux régions centrales. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver au fil des heures, les nuages vont se morceler. Il y a toujours ce petit vent de nord-est qui rafraîchit un petit peu l'atmosphère. Et puis, bah, toujours du soleil, du Sud-Bretagne à la Méditerranée, plein soleil comme ce matin. Une petite averse, voire un orage, ne sont pas à exclure, mais uniquement en montagne, sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Et puis, bah, les températures sont de saison, c'est déjà pas mal. 19 à Cherbourg, 22 à Abbeville et Nancy, 24 à Nantes, Paris et Lyon, 25 à Limoges, 29 à Toulouse, Perpignan et Marseille.
Et attention Pascal, on en profite demain, puisque ce sera la plus belle journée de la semaine.
Oui, c'est ça, Peggy. La plus ensoleillée à l'échelle de la France, je précise.
Vous allez pouvoir
bien
sortir votre maillot, Pascal.
Depuis le 1er juillet. C'est la plus belle journée de demain.
Quelques bémols tout de même.
Il fera beau partout, c'est jamais arrivé.
Oui, mais si, quand même, Pascal, c'est arrivé quand même. On a eu quand même des journées bien ensoleillées.
Bien sûr.
Un peu plus de nuages et de grisailles, malgré
président,
tout.
Sous un peut-être.
Au nord, le matin, au Nord-Bretagne, Île-de-France, jusqu'aux Ardennes. Mais ça va se dissiper, tout ça, évidemment, on va retrouver de belles éclaircies. Ailleurs, plein soleil dès le matin, sauf sur les reliefs des Pyrénées, où le ciel sera déjà plus nuageux avec un petit risque d'averse. Ça pourrait tourner à l'orage l'après-midi, une petite averse possible également sur les Alpes du Sud. Et sous ça, sous des températures qui vont peu bouger, donc encore de saison. 19 à Cherbourg, jusqu'à 31 à Toulouse, 24 à Reims, Paris et Mulhouse, 26 à Lyon, 29 à Bordeaux, Nîmes et Marseille.
Merci Peggy.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Merci Amandine, on se retrouve demain.
À demain.
À 12h30 et nous sommes avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors on est avec Charles et je rappelle que ce mardi est le dernier jour de Didier Raoult au sein de la PHM, le microbiologiste qui arrive à 69 ans à l'âge de la retraite. La nouvelle direction n'a pas souhaité le prolonger, une décision qui n'a pas plu au principal intéressé. On l'a entendu dans le journal de Amandine il y a quelques instants et la question que je posais, que nous posions à Ariane Chemin qui a écrit un livre, mais également à Charles qui est avec nous, c'est est-ce que c'est un génie incompris ou est-ce que c'est un gourou mégalo? Quel est votre sentiment, Charles?
Bon, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un des infectiologues et un des virologues les plus doués que l'on ait en Europe. Moi, j'ai suivi ses travaux, surtout ceux de l'IHU Méditerranée Infection, depuis janvier 2020. Ils ont fait un travail absolument incroyable. Ils ont été les premiers à tester en masse. Je crois qu'ils ont testé plus de 600 000 personnes, à encourager les tests. Ils ont été les premiers à faire le séquençage génomique pour déterminer le type de virus auquel on avait affaire. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait une volonté de se séparer de Didier Raoult, ou alors c'est une volonté bourgeoise. C'est-à-dire que comme il n'a pas une tête tout à fait conventionnelle, comme il ne va pas toujours dans le sens de son ordre professionnel,
Et ce n'est pas ça, moi, que je lui reproche, Charles. Ouais. Moi, j'ai un souci avec Didier Raoult, comme sans doute beaucoup de gens. D'abord parce que je suis plutôt séduit par lui, pour tout vous dire. J'aime bien la manière dont il s'exprime, je trouve qu'il y a une certaine hauteur, même une certaine philosophie, il y a quelque chose d'agréable, il n'y a pas d'arrogance ou de morgue très souvent. Donc l'homme qu'il est peut être séduisant. Mais tout à l'heure, Amandine faisait écouter trois phrases qu'il a dites, qui sont absolument dévastatrices pour lui. On va les réécouter, ces trois phrases, parce que vous dites que c'est un des plus grands infectiologues, mais il se trompe sur trois choses, et on va les entendre de nouveau. Avec le recul, on se dit comment un professionnel de la profession peut-il dire des choses aussi inexactes? Je vous propose de le réécouter.
Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas.
La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement, c'est de la science-fiction.
Je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi.
Bon, donc ça c'est terrible. Il te dit une maladie infectieuse sur toute la Terre, ça n'existe pas. Je rappelle quand même que c'est sa profession. Il te dit ensuite, un vaccin, c'est de la science-fiction. Et il termine en disant, je ne vois pas qui va vouloir se faire vacciner puisque cette maladie ne tue pas. Donc là, tout en l'appréciant, parce que vraiment, je suis comme beaucoup de gens, je peux être séduit par sa personnalité, mais se tromper à ce point... Mais peu importe,
Non, parce qu'il y a
une maladie infectieuse sur la Terre, je veux dire, peu importe. C'est quand même son métier de savoir qu'elle peut être, qu'elle peut se répandre sur toute la Terre. D'ailleurs, la grippe espagnole, c'était sur toute la Terre. Oui. Il y a des maladies infectieuses qui se sont répandues.
Oui, mais il y a une date à laquelle le vaccin était de la science-fiction. Il y a une date à laquelle les autorités, les autorisations conditionnelles qui sont aujourd'hui les autorisations en place pour les vaccins n'étaient même pas pensables. Donc, en effet, c'était de la science-fiction. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'autorisation définitive sur les vaccins. Par ailleurs, une maladie infectieuse qui s'étend sur toute la planète à cette vitesse-là, c'est complètement inédit. C'est inédit parce que c'est la mondialisation.
Mais c'est son métier de l'envisager. C'est précisément... Oui. Lui, c'est pas... que nous, on se trompe, pourquoi pas? Mais que lui
Moi,
ne prenne pas de...
Trompé.
Ah bon, vous trouvez qu'il ne s'est pas trompé?
Non, je pense... Je ne l'ai jamais pris... j'ai jamais trouvé un seul de ses propos en défaut quand on les remet bien dans le contexte.
Ah, bah ça, vous voyez, alors, vous avez la foi du charbonnier, comme on disait, vous. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on veut vraiment voir ce qu'on veut voir dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a trois exemples où on vient de l'entendre. Et vous dites, ah, bah non, il s'est pas trompé.
On lui reproche de s'être trompé sur l'hydroxychloroquine.
Oui.
C'est l'inverse. L'hydroxychloroquine, dans les trois ou quatre premiers jours des symptômes, lorsque la maladie n'est pas encore trop développée, associée à l'azithromycine et au zinc et à la vitamine D, c'est très efficace et n'importe quel pharmacien du coin de votre rue vous dira que ça réduit la charge virale. Donc il ne s'est pas trompé. Et on lui reproche encore aujourd'hui de s'être trompé.
Écoutez, je trouve que ces sujets sont fascinants en fait. Trouve que ces sujets sont fascinants parce que l'hydroxychloroquine, le monde entier explique qu'a priori ça ne marche pas. Et vous me dites, ça marche dans les trois premiers jours.
Mais oui, parce que les tests qui ont eu lieu dans le monde entier sur l'hydroxychloroquine portent sur des doses que jamais vous prendriez vous-même. Aux États-Unis, on l'a testé en dose toxique et en dose suicide. On a fait une étude sur cette base-là. C'est de la foutaise. Jamais vous allez prendre 20 grammes de paracétamol ou de n'importe quel médicament dans la journée. Eux, ils ont fait des tests à 8 grammes, alors qu'on prend 200 mg. C'est n'importe quoi.
En tout
cas,
vous êtes très bien renseigné, parce que effectivement, ce que vous dites est très précis. On va marquer une pause, Charles. Vous allez pouvoir rester avec nous, bien sûr. Un médecin pourra vous répondre. On est le 31 août 1997, et il y a 24 ans, jour pour jour.
On est le 31 août 2021, Pascal.
Et j'ai dit quoi ?
97.
J'ai dit qu'on était le 31 août 1997 ?
Tout à fait.
Donc là, effectivement, ça va mal.
Plus.
Donc je voulais vous dire que le 31 août 1997, il y a 24 ans, Diana Spencer nous quittait à Paris, dans le tunnel du pont de l'Alma. Donc vous pourrez également, pourquoi pas, si vous souhaitez rendre toujours hommage à celle qui fut la princesse de Galles, nous pourrons le faire. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et je salue Laurent Tessier aujourd'hui.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un nom vous fait réagir depuis le début de l'émission.
La chute de Didier Raoult, il sera ce soir un médecin retraité à 69 ans, il a atteint la limite d'âge.
Il aura été l'une des figures de cette pandémie mondiale, sa blouse, sa barbe et ses conférences de presse improvisées dans son bureau.
Faut-il tourner la page, Didier Raoult ? Que pensez-vous du professeur ? Charles a été le premier à prendre la parole au Standard.
Je pense que c'est un des infectiologues les plus doués que l'on ait en Europe.
Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo ? Ariane Chemin, un grand reporter au journal Le Monde, était l'invité de RTL Midi et elle avait publié une enquête sur le professeur.
Qui passionne, qui divise. Je pense quand même qu'il divise moins qu'il n'a divisé. Même s'il conserve effectivement des fans passionnés, souvent aveugles, c'est quand même un tournant, je crois, qui se passe avec cette mise à la retraite et aussi la situation sanitaire de Marseille aujourd'hui.
Alors Didier Raoult, génie incompris ou gourou mégalo, 32-10, 3-2-1-0.
Nous sommes avec un médecin justement qui va pouvoir nous donner peut-être un avis. Vous êtes généraliste en Vendée. Bonjour Marcelin.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quand vous entendiez Charles tout à l'heure parler d'hydroxychloroquine et qui citait des études assez précises, comment vous réagissez ?
Bah, j'étais un peu étonné. Je pense qu'on n'a pas les mêmes sources. Si on s'en tient à la rigueur scientifique qui est requise dans ce domaine, moi je m'étonne que les conclusions et les dires du professeur Raoult, qui par ailleurs est quelqu'un certainement d'évident, mais qui peut aussi avoir ses petites faiblesses, il semblerait. Il fait des études qui ne sont pas du tout dans le standard requis pour leur représentativité, il émet des conclusions et il extrapole des choses qui sont plus que discutables si on s'en réfère aux méthodes statistiques habituelles et aux méthodes de traitement des données d'études habituelles. Je pense qu'à ce niveau de connaissance et de responsabilité, on est capable de discuter et de participer à un consensus plutôt que de se mettre en volontairement à côté et entretenir beaucoup de choses médiatiques qui sont plus de l'ordre du médical, mais qui sont de l'ordre du médiatique.
Mais justement, puisque vous êtes médecin, nous, on aura découvert les égos des médecins. Alors, je sais que chaque profession a ses égos. Parfois, chez les journalistes, l'ego, c'est simplement de paraître, d'être dans la lumière. Chez les comédiens aussi. Là, j'ai découvert, moi, l'ego des médecins, que je résumerai ainsi, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, c'est « moi, je sais, et vous ne savez pas ».
Dans les hôpitaux, les petits internes et les petits médecins savent qu'il y a toujours des personnages très hauts en couleur, assez mégalos, au point qu'il faut bien distinguer le savoir, la connaissance de tout ce qui est émotionnel et pourquoi pas psychologique et psychiatrique. Voilà.
Aucune profession n'échappe sans doute à cela, mais c'est vrai que chaque profession en même temps a des égos particuliers. Je suis frappé vraiment de voir chez les médecins cette façon de dire vous êtes des ignorants et moi je sais et je sais pour vous, et qui admet peut-être la contradiction, parce que même Didier Raoult aujourd'hui il continue de dire l'hydroxychloroquine ça marche.
ça laisse quand même pour toi.
Bon, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez un malade qui a le Covid, puisque vous êtes généraliste ?
Moi, je suis les recommandations officielles qui se basent sur les consensus émis par d'éminents spécialistes et qui sont révisables d'un moment à l'autre. Et moi, je n'ai pas, petit médecin, des connaissances.
Donc, c'est paracétamol.
Je fais confiance à mon mécano.
D'accord, donc c'est paracétamol, c'est tout.
Pour l'instant, c'est...
Faites pas d'ivermectine, par exemple. Le professeur Henri Joyeux, qui est un cancérologue assez célèbre, dit que l'ivermectine, ça soigne.
Ah, mais Monsieur Joyeux a tout un passé que vous connaissez comme moi.
Il est parfois en difficulté avec le Conseil de l'Ordre, mais c'est au Conseil d'État, pour tout vous dire. Aujourd'hui, il peut exercer, même s'il est en retraite.
Écoutez, je vous dis, ces personnages jouent en couleur, certainement, sont marquants dans la médecine, mais on en a vu d'autres antérieurement, de par le passé. Il y en a eu d'autres, il y en aura toujours. Après, je pense que quand on a un certain niveau de responsabilité, tant au niveau scientifique que médical, c'est lourd de conséquences que de ne pas se rapprocher des confrères pour participer à un consensus et émettre des doutes qui peuvent peut-être aussi coûter des vies, au final.
Ben merci. Merci beaucoup, Marcelin. Vous habitez en Vendée, dans un petit village de Vendée, peut-être, dans une ville de Vendée ?
Oui, j'habite sur la côte atlantique, sur le petit village de Notre-Dame-de-Mont, petite station balnéaire, charmante.
Eh ben écoutez, il fait beau aujourd'hui à Notre-Dame-de-Mont ?
Oui, il fait beau. Un léger voile, mais une impression de beau temps très, très agréable cette période.
Bon, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes assez optimiste, Marcelin, donc c'est assez agréable de vous écouter. L'été n'a pas été extraordinaire. Vous, dans ces cas-là, vous, l'été, pendant la saison, vous prenez des vacances ou vous assurez la permanence pour les baigneurs, comme on disait jadis?
Ah oui, effectivement, c'est pas la période où on prend trop de vacances l'été. Il y a un flux estival très important. J'ai quand même réussi à prendre quelques jours, quand même, à me faufiler quelques jours. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marcelin. Marcelin, vous connaissez Olivier, sans doute, qui est à la page Facebook désormais de l'émission depuis une dizaine de jours. Et Olivier qui nous fait part des messages qui sont dits sur Internet. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Pour Thierry, on va désormais voir Didier Raoult de plus en plus sur les plateaux télé. Dom nous dit qu'il s'est trompé sur à peu près tout pendant cette crise, donc je comprends ses confrères qui le poussent vers la sortie. Françoise nous écrit « Quoi qu'il arrive, je lui souhaite une bonne retraite, il a été brillant et source d'espoir, c'est un génie incompris. » Pour Antoine, Didier Raoult va à contre-courant, on veut le faire taire. Et on finit avec Anne qui nous dit « On ne peut pas se passer de lui, signons tous une pétition afin qu'il intègre le gouvernement. »
Eh bien écoutez, merci beaucoup Olivier, on va marquer une page de pause, si j'ose m'exprimer ainsi. Je vais saluer Damien Béchiot.
Bonjour Pascal.
Tout va bien ?
Très bien, et vous ?
Écoutez, ça va pour le moment. On pourra parler d'Mbappé, si vous le souhaitez. On pourra parler de Lady Diana, si vous le souhaitez. Je le disais tout à l'heure, c'était le 31 août 1997. Du Danemark également. Si vous revenez du Danemark, si vous êtes allé en vacances au Danemark, si vous partez, pourquoi pas, pour le Danemark, si vous connaissez bien ce pays, racontez-nous, parce que c'est un des premiers pays qui abaisse toutes les restrictions. Donc il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de jauge, c'est le monde d'avant. Alors c'est vrai que 70% des gens quasiment sont vaccinés et qu'on sort d'un pass sanitaire de 5 mois. Donc sans aucune manifestation, personne n'a contesté le pass sanitaire au Danemark. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Goodbye, England's Rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest place to celebrate.
Tout le monde se souvient sans doute où il était lorsqu'il a appris la mort de Lady Di. C'était un dimanche matin et la France s'est réveillée vers 9h, 10h en apprenant le décès de la princesse de Galles. Et chacun se souvient sans doute des images, des obsèques avec William et Harry, tout jeunes, derrière le cercueil de la princesse de Galles avec leur grand-père et leur père. C'était il y a 24 ans, jour pour jour. Nous sommes avec Philippe qui est infirmier à Marseille. Bonjour. Philippe ?
Oui, allô ?
Philippe, vous êtes infirmier à Marseille.
C'est exactement.
Et c'est intéressant de le dire parce qu'on a l'impression aussi que Marseille, c'est une ville très particulière, puisque...
Un petit peu, oui.
Voilà. Vous êtes né à Marseille ?
Non, je ne suis pas né à Marseille, je suis né à Héro.
Il y a un attachement très fort des Marseillais à leur ville, alors sans doute...
C'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est vrai qu'en général, on a un grand attachement.
Voilà, alors évidemment, tout le monde est attaché à sa ville, mais il y a quelque chose de cocardier, peut-être, à Marseille, qu'on retrouve évidemment dans l'équipe de foot. Et il y a cette dimension-là aussi, de ne pas vouloir taper sur Didier Raoult lorsqu'on est un Marseillais. C'est aussi l'emblème de la ville aujourd'hui.
Oui, après, il faudrait encore-t-il savoir pourquoi lui taper dessus. C'est ça le sujet, puisque très tôt, comme ça a été dit dans votre émission, il a testé les Marseillais, il a proposé des choses, il a soigné. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, quoi, Didier Raoult. Vous voyez ?
On n'a pas quand... C'est toujours pareil. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Mais en fait, quelqu'un qui se trompe sur un traitement, quelqu'un qui,
alors,
se trompe...
C'est facile à dire comme ça. J'ai été sidéré tout à l'heure par l'intervention du médecin généraliste qui allait encore à 20 mois en arrière à traiter les patients Covid avec du Doliprane. C'est sidérant, quoi. C'est sidérant. Je veux dire, ça a évolué. Les maladies virales et les maladies notamment respiratoires, virales, on sait très bien que dès que ça dégénère un petit peu, 3 à 4 jours, il faut faire intervenir un antibiotique derrière. On sait très bien, et la science, c'est connu et reconnu, médicalement, que le zinc est un anti-infectieux, que la vitamine D est un anti-infectieux. Donc, Raoult, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit ces médicaments. C'est tout ce qu'il a fait. Après, il a rajouté l'hydroxychloroquine derrière. Mais tous ces résultats qui sont publiés, d'ailleurs, sur le site de l'IHU, hein, ça a été le plus clair, en fait, et le plus transparent sur ces statistiques, surtout. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il a une mortalité 10 fois inférieure aux autres.
On peut lui reprocher simplement que ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Que
mais si ça ne marchait pas, il aurait une surmortalité.
Mais l'hydroxychloroquine, ce qui m'ennuie, c'est dans... Vous voyez, on a eu 50 000 fois ce débat. Moi-même, je ne suis pas armé pour parler de l'hydroxychloroquine. Vous vous doutez bien, je ne suis pas médecin. Si ça marchait, le monde entier l'utiliserait. Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne l'utiliserait pas.
Il faut être modéré sur ça. Ça a été utilisé, beaucoup utilisé en Inde, ça a été utilisé en Russie, ça a été utilisé un petit peu en Chine aussi, ça a été utilisé en Grèce, au Portugal, ça a été arrêté très rapidement dans d'autres pays dès qu'il y a eu le scandale du Lancet. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur perspective. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a eu ce fameux scandale du Lancet où tous les pays, dont la France, donc, a interdit aux médecins de prescrire, alors que c'est une fausse étude.
Oui, c'est vrai que vous avez raison, ça, cette étude a été dévastatrice, vous avez parfaitement raison.
Mais
c'est pas parce que cette étude est dévastatrice que l'hydroxychloroquine marche. C'est pour ça que c'est...
Ah non, mais moi, je ne rentre même pas dans ce débat-là parce que je n'en ai pas les compétences.
Oui, mais c'est essentiel quand même.
Oui, mais l'essentiel, les seules choses qu'on peut regarder dans la science, parce que moi, je m'y intéresse quand même, il y a eu plus de 250 publications en faveur, il y en a eu plus d'une centaine en défaveur. Alors, il y a eu des études randomisées en défaveur, c'est vrai. Comme disait votre intervenant tout à l'heure, il y a eu des surdosages dans certaines études, il y a eu des trucs qui sont qui étaient un peu compliqués. Et chaque fois, on a fait des études sur la seule hydroxychloroquine. D'accord ? On a fait très très peu d'études sur l'association de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine. Et en maladie, et en pathologie, en maladie virale, il faut, comme je vous ai expliqué, il faut...
Je suis d'accord. Bon, je rappelle que vous êtes infirmier, mais on va pas, je vous dirais, entamer ce débat parce qu'on n'en sort jamais.
Oui, c'est compliqué, on ne s'en sort jamais.
Voilà, on n'en sort jamais. Bon, en revanche, vous appréciez sa personnalité. Vous trouvez dommage de se passer de ses services.
Non, je le trouve, sa personnalité, je ne l'apprécie pas spécialement. Sa personnalité, je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un de, qui a un ego surdimensionné. Mais c'est quelqu'un, c'est un grand scientifique. C'est quelqu'un qui a de la recherche, qui a trouvé beaucoup de choses. Et comme je vous disais, on juge en fait un médecin et un hôpital sur ses résultats. C'est pas sur sa façon d'intervenir, sur ses polémiques, sur tout ce qu'il y a eu. L'essentiel, c'est là, c'est savoir comment il a soigné, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a proposé. Il a proposé beaucoup de choses. Il a proposé sur les tests, il a parlé du Covid, ça a été le premier à parler du Covid long, à parler des époxies heureuses, des prises en charge précoces, des scanners low dose, des mutations. C'est lui qui a utilisé les marins-pompiers pour les eaux usées. Donc il a proposé beaucoup de choses pour cette crise. Après, la polémique qu'a eu Didier Raoult, elle a été utilisée, je pense, aussi médiatiquement parce que ça fait vendre.
Ça fait vendre, et puis parce que je pensais que vous alliez dire parce que les Parisiens n'aiment pas Marseille. Merci en tout cas, Philippe. Ouais. Merci. Merci et bonne journée du côté de Marseille. On prendra encore un dernier auditeur sur Raoult, et puis après, on parlera de la drogue. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ou est-ce qu'il y a une forme de fatalisme? On se dit, depuis des années, on n'arrive pas à résoudre ce problème. On pourra parler d'Mbappé si vous le souhaitez également. À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dernier témoignage sur le professeur Raoult avec cette question. Est-il un génie incompris ou un gourou mégalo? Nous sommes avec Philippe qui est formateur à Bourges. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bon, moi, en ce qui concerne le professeur Raoult, j'ai pas d'animosité contre lui. Je pense que c'est un scientifique de renom qui a fait ses preuves, et je vois pas pourquoi on jette l'opprobre sur ce professeur sans arrêt. En quoi un professeur Raoult serait moins crédible qu'un Delfrécy qui a 73 ans aujourd'hui, on est rentré dans une doxa où il y a des gens qui sont les colombes bleues qui ont la vérité, et puis on a d'autres qui essaient d'aller sur des chemins différents, qu'on traite de complotistes, de fascistes, etc., etc. Et ça me dérange. On est face à une problématique, le Covid, qui n'est pas anodin. Et je rappellerai à ces professeurs-là qui critiquent Raoult, le serment d'Hippocrate, qui dit ceci: j'apporterai aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille dans l'adversité. On n'est pas là pour traiter les autres de charlatans. Il aurait été beaucoup plus judicieux de s'unir. Et de se dire, face à cette problématique, trouvons des solutions ensemble. Et moi, quand je vois des Lacombe, des Blachier traiter le professeur Raoult, de charlatan, c'est comme si un jeune journaliste disait Pascal Praud, c'est un guignol, est un charlatan. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'à un moment.
Ça se trouve, il y en a, hein?
Oui, ça se trouve, il y en a. Non, mais je veux dire, à un moment, on n'est pas là. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve du bon sens par rapport à ça. Et le professeur Raoul, comme l'a dit votre auditeur précédent, bon, ben, il a essayé d'expérimenter plusieurs choses, il a fait son possible, mais. Bon, bah c'est vrai qu'il est atypique, il a une certaine personnalité.
Mais c'est pas ça qu'on lui reproche. Moi, c'est pas sa personnalité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est ennuyeux, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au niveau d'expertise qu'il est, et je le répète, moi j'ai plutôt de la sympathie pour l'homme qu'il est, parce que je devine qu'il y a une dimension culturelle, intellectuelle qui peut être séduisante. Mais quand il dit une épidémie qui va dans le monde entier, ça n'existe pas. C'est ennuyeux quand même de dire ça.
Oui, Pascal.
Parce de se tromper à ce point, de dire un vaccin, c'est de la science-fiction, c'est aussi ennuyeux parce que c'est son job, c'est son métier.
Pascal, je suis d'accord avec vous, mais combien de professeurs qui ont fait de l'éruption existentialiste sur les plateaux de télé ont dit tout et son contraire?
Oui, pas tous d'ailleurs, il y en a. Parce que tu peux te tromper à la marge. Tu peux te tromper, mais en plus il le dit avec beaucoup d'assurance, les phrases qu'on a entendues tout à l'heure. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux, et au départ il avait parlé de, je sais pas si c'est, je crois que c'était Grippette, hein, lui. Donc vous voyez, tu attends de quelqu'un dont c'est le métier depuis 40 ou 50 ans, qui s'occupe de virus depuis 40 ou 50 ans, bah, une expertise peut-être plus précise que celle qu'il a pu donner à un moment. Pour le reste, vous avez raison, tout le monde s'est plus ou moins trompé.
Trompé, je pense qu'il faut quand même garder un peu de bon sens. Et je pense qu'on est face à une problématique où bon, on ne connaît rien encore sur ce vaccin. Celui-ci qui dit qu'il a des certitudes, c'est un menteur. Hein. Ce n'est pas vrai, on n'a aucune certitude. En médecine, il y a quelque chose qui est paradoxal. L'incertitude est dangereuse comme la certitude est dangereuse. Mmh. Les deux cas sont extrêmement dangereux. Et moi, ce que je vois, Pascal, en toute sincérité, c'est que je me suis aperçu qu'aujourd'hui, avec cette crise, les crétins sont pleins de certitudes et les gens de bon sens pleins de doutes. Et je pense que c'est le bon sens et le doute qui nous fera avancer et non pas les certitudes. Et de jeter l'opprobre sur le professeur Raoul, ça me dérange un peu, quoi. Aujourd'hui, on voit que si on n'est pas dans une certaine doxa, on est le paria à abattre. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des...
C'est quoi la doxa? Ça m'intéresse, ça, pour vous.
Comment?
C'est quoi la doxa?
Bah, cette doxa de la bien-pensance.
Oui, mais, mais ça se traduit comment, ça? J'ai compris, mais pour vous, c'est quoi?
C'est-à-dire que si vous essayez d'écouter une voix divergente à la parole actuellement gouvernementale, vous êtes forcément un complotiste.
Je suis d'accord, mais pour vous, c'est quoi la parole gouvernementale sur cette épidémie? C'est ça?
C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez mourir, vous irez en réa, etc. Alors oui, effectivement, ce n'est pas un virus anodin. Mais regardons toute proportion. Regardez, ce matin, je regardais encore les chiffres officiels. On est à 1,6% de taux de mortalité. C'est quand même pas... on pourrait avoir beaucoup plus.
Non, on est à moins que ça, d'ailleurs, sur la population française. Il y a 100 000 ou 120 000 personnes, on est à 66 millions. Donc, c'est même pas... On est à
0,16, mais par rapport aux 6 750 000 contaminés, on est à 1,6%. On n'est pas sur des chiffres extraordinaires. Imaginez qu'à la sonde du permafrost, on ait des bactéries qui viennent de 3 millions d'années.
Ça, c'est un fantasme, ça. Ça, je peux vous dire que le permafrost, il faut expliquer d'ailleurs ce qu'est le permafrost. Hein, c'est dans les glaces, on retrouverait ou des bactéries ou des virus qui auraient été là il y a quelques milliers d'années. Les virus qui tuaient les mammouths, si j'ose cette comparaison.
Qu'est-ce qui se passerait?
Je peux vous dire que mais c'est un fantasme, hein, les virus du permafrost. Bon, merci en tout cas, Philippe. Merci, c'était vraiment très très intéressant. Là, je pourrais vous dire qu'effectivement, ça rigolerait moins.
Si on sort
mais il y a un côté science-fiction, vous savez, il y a un côté film d'anticipation avec le virus. Déjà, le mot permafrost, vous voyez, ça fait un petit peu peur.
C'est
le virus,
quoi,
du permafrost.
Vous pouvez faire un film dessus, Pascal, peut-être?
Non, parce que c'est pas mon métier, mais nous allons marquer une pause et je vais me lancer déjà à cet exercice. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le président de la République sera mercredi, jeudi, vendredi à Marseille. Ça va être un événement important et un marqueur peut-être de ce début de rentrée. Que va-t-il annoncer? Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour.
Pourquoi bonjour?
Je vous ai déjà vu, d'ailleurs. Mais on peut se redire bonjour. Oui, deux fois, il n'y a pas de souci. Hein.
C'est qu'il y, y avait un sketch comme ça de Guy Bedos où il moquait les gens qui disent re.
Ah,
vous voyez, quand ils t'ont dit bonjour et puis ils te recroisent dans la journée, ils te disent re.
Oui,
vous connaissez pas ce sketch de Guy Bedos ?
Laissons-nous pouvoir dire re, quand même.
Bon.
Autre sujet au 32-10 et sur nos réseaux sociaux. L'État est-il impuissant face au trafic de drogue ? Vous l'avez dit, Pascal. Emmanuel Macron se rendra demain à Marseille pour annoncer un grand plan, notamment sur les questions de sécurité.
300 policiers supplémentaires déjà promis. Préparez-vous à voir Emmanuel Macron partout, des quartiers nord aux Calanques, où il ira même faire un tour en bateau.
Benoît Payan, le maire de la Cité Phocéenne, était l'invité de RTL Soir la semaine dernière avec Julien Cellier. Que demande-t-il ?
C'est bien évidemment plusieurs centaines de millions d'euros qu'il va falloir investir sur cette ville, pas pour faire un plan de rattrapage, pas pour faire un énième plan, pas pour faire un chèque en blanc. Les Marseillais ne demandent pas l'aumône. Il faut se donner les moyens de mettre fin à cette gangrène.
Avez-vous l'impression que rien ne change ? Comment en finir avec ces trafics ? A-t-on abandonné certains quartiers ? Écoutez cette réalité du terrain avec Rudy Mana, le secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat de policiers Alliance dans RTL Midi.
La quasi-totalité des cités marseillaises, je crois qu'il y en a 42 de mémoire dans les quartiers nord de Marseille, ont des checkpoints, ont des herses, ont des murs qui ont été installés, des murs, hein, vous m'entendez, je plaisante pas quand je vous dis ça, c'est des murs. Ils ont mis des grilles qu'ils récupèrent dans des propriétés, ils les mettent à l'entrée de l'immeuble, ils fouillent les voitures, ils contrôlent les papiers des gens qui rentrent à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ça est une réalité sur Marseille.
Alors peut-on vraiment régler le problème ? La faute à qui ? Nous attendons vos témoignages dès maintenant au 3210 3210.
Et on va être avec Virginie qui est infirmière. Bonjour Virginie.
Bonjour Pascal.
Et qui va nous parler de la situation particulière à Marseille, qui est liée à la drogue ou pas ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup liée à la drogue. Et puis attendez, la drogue, c'est pas que dans les cités des quartiers nord. Hein. Moi, j'habite pas les quartiers nord. Ma tournée n'est pas dans les quartiers nord. Et je peux vous dire que... Un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une cité dans laquelle je vais trois fois par jour. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de trafic sur cette cité, ça a été éradiqué et tant mieux. Il y a début juillet, puisqu'ils ont détruit une autre cité où il y avait du trafic, mais ils ont détruit les bâtiments, ils ne savaient plus où aller, donc ils cherchaient certainement un endroit. Et je me suis, un soir, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est nouveau, ça vient de sortir. Des jeunes qui mettaient leurs chaises à l'entrée de la cité pour guetter. Donc je me suis dit, tiens, il y a des guetteurs, le trafic revient. Moi, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout d'une semaine, ce n'est pas la police qui a agi. Au bout d'une semaine, ce sont les habitants de la cité qui ont sorti toutes leurs chaises, leur barbecue et machin, et leur table, qui se sont mis aux heures où il y avait les dealers, qui se sont relayés pour gêner le trafic, gêner les trafiquants, gêner les clients aussi. Ce qui fait qu'en une semaine, 10 jours, les dealers ont fini par baisser les bras parce que le point de deal ne leur rapportait rien puisqu'il y avait trop d'habitants sur place et dehors pour pouvoir avoir assez d'argent pour garder ce point de deal, parce qu'il faut qu'un point de deal soit rentable. Attention, vu comment j'ai déjà vu des documentaires, des reportages, vu combien est payé rien que le petit qui guette, le petit guetteur.
Il gagne 200 euros, je crois. Le petit guetteur qui a 14 ans généralement, et c'est ce que disait Rudy Mana tout à l'heure, qui devrait être à l'école plutôt qu'être à un checkpoint, il gagne 200 euros. Et c'est le premier salaire, si j'ai bien compris. Quoi. Le mot salaire n'est pas adapté, mais c'est le premier revenu qui est donné.
Le problème, c'est que quand les flics font des descentes, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Ils ne vont pas trouver les grandes pompes, les grands sont les chefs du trafic. Non, ils vont trouver les petits qui, pour la grande majorité, ne sont pas encore majeurs, hein, ou alors à peine.
Bah on va poser la question à Eddy, figurez-vous, parce qu'Eddy, il est policier, et ça me fait plaisir de l'écouter à nouveau.
Il est policier sur Marseille, alors il faut qu'il m'explique pourquoi il ferme 3 commissariats aussi.
Ah bah tiens, il va vous répondre. D'abord, bonjour Eddy.
Bonjour Pascal.
Ça me fait plaisir de vous entendre parce que au printemps dernier, vous êtes intervenu plusieurs fois. Je me souviens de nos conversations, toujours très instructives parce que vous racontez ce qui se passe sur le terrain. Virginie vous pose une question. Pourquoi vous fermez 3 commissariats à Marseille, Eddy ?
Ah, c'est pas moi qui les ferme.
Non, je sais bien.
Je suis. Ça, il faut demander.
Mais c'est une réalité ?
qu'il y ait des fermetures de commissariats, j'en ai pas eu écho. Qu'il y ait des fermetures de bureaux de police, certainement. Des restructurations, mais là, je crois, à l'heure actuelle, on parle de création d'un commissariat dans les quartiers nord. J'ai pas souvenir que récemment, il y ait un commissariat ou un bureau de police qui est fermé à Marseille.
C'est-à-dire que vous me dites que vous allez créer un commissariat dans les quartiers nord, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas?
Non, si, il y en avait. Il y une division nord, il y a une division nord. Il faut savoir comment c'est organisé. Division nord qui couvre, je crois, 4-5 arrondissements. Et il y a des bureaux de police. Il y a un autre commissariat dans le troisième, un nouveau qui a été annoncé par notre ministre il y a quelques semaines, qui va regrouper le 13e et 14e arrondissement. C'est déjà une bonne nouvelle.
Eddie, ce qui est intéressant, c'est votre quotidien. Et oui. vous intervenez dans les cités?
Ah ben oui, je suis sur le terrain. J'ai fait que ça, je fais que du terrain. Je suis marseillais, j'ai grandi dans les quartiers nord. J'y vis. Donc
Vous vivez toujours dans les quartiers nord?
Oui.
Autour de vous, les gens savent que vous êtes policier?
Oui, les gens savent que je suis policier. Je m'entraîne dans une salle de sport où il y a des jeunes de quartier, comme on dit. Mmh. Ça se passe, pour moi, dans mon cas personnel, ça se passe très bien. Et je suis dans un service qui bouge. Donc je ne suis pas dans un service où je suis dans un bureau. Voilà, quoi.
Mais dans la cité dans laquelle vous habitez, c'est une cité d'ailleurs, quand on dit les quartiers nord...
C'est pas une cité. Il faut savoir que dans les quartiers nord, même si vous n'habitez pas dans une cité, à moins de 200-300 mètres de chez vous, il y a une cité. Il y a une cité où ça vend de la drogue, il y a une cité où ça deal, il y a une cité où il y a, voilà, c'est en gros en coupe réglée. C'est comme dans les images. Mais il faut savoir que nous, policiers, je vais rassurer madame, on intervient.
On a vous intervenez, mais manifestement, le lendemain, il y a de nouveaux guetteurs ou un nouveau checkpoint.
Pascal, je vais vous dire une chose. On a parlé des marronniers, du checkpoint des marronniers. Il faut savoir qu'il n'y a même pas une dizaine de jours, on a interpellé un individu sur cette fameuse cité qui participait au trafic, qui mettait les barrières pour nous empêcher de passer. On l'a interpellé dans une autre cité, pareil, deux autres. Sachez une chose, le parquet poursuit. Dire que le parquet ne poursuit pas, le parquet...
Mais par exemple, ce jeune homme qui a été interpellé, il est en prison aujourd'hui ou il a été relâché?
Alors, pour ça, je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il est passé en comparution immédiate.
Mais il faudrait qu'il soit en prison.
Certainement.
Ça me paraît tellement évident que quelqu'un qui fait un checkpoint... J'ai entendu l'autre jour le ministre de la Justice dire on va d'abord expliquer à celui qu'on juge qu'il est coupable, et 7 mois après, on donnera le quantum de la sanction. Je me dis, il faut 7 mois pour faire une sanction, même pour un mineur.
Pascal, là, on en revient toujours au problème. Et malheureusement, c'est le cas, c'est les moyens. Quand vous mettez 300 policiers à Marseille, il faut en mettre aussi dans les services d'investigation, pas que sur le terrain. Parce qu'on va vous ramener, des délinquants, on va vous ramener à Marseille. Des guetteurs, des charbonneurs, des vendeurs, on va vous ramener. Ça, on va vous ramener.
Donc le guetteur, je comprends, le charbonneur, c'est quoi?
C'est celui qui vend, celui qui a la sacoche et qui vend.
D'accord.
Ça, c'est une chose, c'est qu'il faut aussi rajouter du personnel à la justice. Ça me fait de la peine de me dire qu'ils sont très peu nombreux en été aussi pour juger, pour les faire passer en comparution immédiate. C'est un travail d'ensemble. Bon.
On fait une pause, Eddie, et on continue la discussion, parce que je le dis tous les jours, mais vous savez de quoi vous parlez, vous êtes sur le terrain, et en plus, il n'y a pas de langue de bois, parce que vous cherchez pas à vous faire réélire. Donc ce que vous dites est souvent, hélas, la vérité. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Vous dites, vous êtes policier, vous êtes sur le terrain, vous dites on intervient, mais qu'il y ait par exemple un seul checkpoint à Marseille. Mais moi je suis sidéré de cela. Et on me dit qu'il y en a 40.
Oui, c'est un phénomène qui date depuis un an et demi.
Avant, enfin, c'est pas, sidérant.
Alors, je vous explique. Nous, quand on intervient dans ce cas-là, on intervient, on interpelle. On ramène l'individu. Après, on peut demander au service de la mairie de venir débarrasser. Parfois, le service de la mairie ne veut pas venir, ne vient pas débarrasser, de peur. Mais nous, on leur dit, on leur explique qu'on est là. qu'on peut sécuriser le truc, mais c'est hallucinant.
Alors, mais bien sûr que c'est hallucinant, que... les gens ils découvrent ça. Tout à l'heure, vous devez connaître sans doute Rudy Mana, j'imagine.
Oui.
Bon,
oui.
Vous êtes des collègues.
Non.
Il dit qu'il y a une herse, il dit qu'il y a des gosses de 14 ans qui filtrent. Ils devraient être à l'école, ces gosses-là, ils ne vont plus du tout à l'école. Les parents sont, on ne va pas les chercher.
Pascal, nous policiers, vous voulez qu'on fasse quoi? On a un côté un peu social aussi, hein, de sermonner certains jeunes. On leur dit, et je vous assure qu'on discute avec eux.
Mais j'imagine, Eddie, vous, votre engagement, on le sent d'ailleurs à votre voix.
On leur dit, arrête, c'est la mort, ton espérance de vie est limitée dans ce domaine-là. Si tu veux faire, c'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais je le dis, parce que ces gamins sont des fois perdus. Et je leur dis, si tu veux vraiment aller faire des conneries, fais pas ce genre de conneries. Mais toi, je sais très bien que tu vas avoir l'argent facile. C'est un problème. C'est un problème. Moi, je parle d'éducation parce que je viens des quartiers, je suis de ces quartiers. Moi, je vis, mes frères et sœurs, on a grandi. Et c'est pas une fatalité de vendre de la drogue ou de devenir délinquant. C'est faux. Il faut arrêter de mettre ça dans l'esprit de ces jeunes-là qui sont des victimes. C'est faux. Voilà, c'est faux. Parce que la plupart des cités des quartiers nord ont été rénovées. Et il y a, comme les Flamands, la vidéo qui tourne actuellement où on voyait des jeunes tenir une barrière. Mais la cité a été quasi entièrement rénovée. Il reste une partie qui n'a pas été rénovée, mais tout a été rénové.
Bon, est-ce que vous pensez, parce que moi franchement je n'y crois plus, hein, je vous dis vraiment j'y crois plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans 5 ans on fera exactement les mêmes débats. Le jardin Éole à Paris comme à Marseille. Ça fait 30 ans que j'entends les mêmes choses. Ça fait... Bon, pourquoi ? Parce qu'on ne se donne pas les moyens, parce que nos lois ne sont peut-être pas adaptées, parce qu'on n'a pas de place de prison, parce qu'on ne veut pas une justice ultra répressive. En fait, pour plein de raisons, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. C'est fichu et qu'il n'y a rien à faire. Est-ce que vous partagez ça ?
Je dirais pas jusqu'à là, je dirais, parce que sinon je change de métier, j'arrête et je me retrouve dans un bureau à enquêter ou quoi que ce soit. Il faut pas être fataliste quand on est policier de terrain. Il faut continuer à se battre malgré les moyens qu'on a. On nous a donné les moyens de plus en plus, on a de plus en plus d'effectifs. Il faut continuer, il faut pas relâcher. Imaginez-vous si que je commence à, ça fait chier, je vais être vulgaire, hein, ça fait chier des fois d'interpeller et de voir que le lendemain il est dehors. Mais j'espère et je pense que le parquet déjà prend à bras le corps ce problème avec le peu de moyens qu'ils ont. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Il faut se battre jusqu'au bout. Et la drogue, il y en aura toujours. Il y vendra toujours. Ils trouveront d'autres moyens. Mais moi, ce qui me fait de la peine dans ce problème-là, ce sont les gens. Pascal, sache une chose. Une fois, on est intervenu, on a interpellé le vendeur de drogue. Une personne âgée dans la cage d'escalier nous dit discrètement « Merci d'être là. Merci. On a peur. » Quand vous attendez ça, ben je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on a raté depuis ces années pour que des gens qui ont vécu toute leur vie dans ces quartiers, où avant c'était calme, et qui nous disent, on a peur. Ça me fait chier.
Vous avez quel âge, Eddy ?
39 ans.
Vous êtes dans le même quartier dans lequel vous êtes né ?
Non, je travaille dans le quartier, dans les quartiers, non. Je suis né dans le 3e et je vis dans le 15e.
Et quand vous disiez, quand vous rapportiez ce témoignage de cette personne qui dit on a peur et dans le temps ça se passait mieux, le basculement, c'est quelle année ?
Oh, je pense que c'est entre les années 2000 et 2010.
Donc c'est assez récent finalement.
Ah oui, c'est assez récent. Je vous explique un peu mon cas personnel.
Vous avez 40 ans.
Ouais,
vous êtes de 1980.
81. Et j'ai vécu dans une cité dans le 3e où il y avait de la drogue. Il y avait un point de vente. Moi, j'étais petit. Bon, je touchais pas. Ma mère me tuait si je ramenais la police à la maison. Elle me tuait. Ça se prend du terme. Il y avait des heures de rentrée, tout ça. Il n'y avait pas ce checkpoint. Il n'y avait pas cette manière de tenir le réseau. Il n'y avait pas de, voilà. C'était autre chose. Il n'y avait pas de, il y avait une, pour aller dans la criminalité, dans la voyoucratie, il y avait des étapes à passer. Là, vous avez un gamin de 20 ans qui peut être gérant d'un réseau.
Mais vous avez dit un mot essentiel, hein, dans votre phrase. Vous avez dit « ma mère me tuait ». C'est-à-dire que votre mère était présente. On a le sentiment que ces gosses, moi je ne sais pas comment ça se passe, mais qu'ils sont élevés, qu'il n'y a plus de parents.
Mais Pascal, je vous explique une chose. Si je ramenais un vêtement que ma mère ne reconnaissait pas et qui valait à l'époque 500 francs ou 1000 francs, des baskets à 1000 francs comme les Nike, je peux vous assurer que ce n'est pas que les oreilles qu'elle me tirait, ma maman.
Hey.
Et là, les gamins, ils ont des vêtements. Je vous assure, c'est fou. Je contrôle des gamins de 18 ans, 19 ans, des jeunes, qui ont 2000, 3000, 4000 euros sur eux, qui roulent en bagnole à 54 000 euros la bagnole, des voitures de location. Et vous voulez faire quoi ? Oui, on va faire notre travail, on va les verbaliser. S'ils ont trop d'argent, On va les prendre pour une non-justification de ressources. Comme je vous dis, il existe des délits comme celui qui tient la barrière. Il y a un délit, ça s'appelle entrave à la circulation et association de malfaiteurs. Parce qu'en plus de faire ça, ils crient ah, donc ils participent au trafic. Et nous, on les interpelle. Dire qu'on ne fait rien, c'est faux. On a peu d'effectifs. On nous a donné plus d'effectifs maintenant, mais on est sur le terrain. Et l'éducation, c'est la base.
Non, mais Eddy, vraiment, je ne sais pas si les gens reconnaissent votre voix, votre témoignage, et vous interveniez régulièrement, je veux dire, dans cette émission, et à chaque fois, je suis tellement séduit par ce que vous dites et tellement, en même temps, admiratif, toujours, de votre engagement, de votre enthousiasme, que n'hésitez pas à nous rappeler régulièrement et de nous donner des nouvelles de Marseille. Ça serait pas mal, par exemple, que lundi, après ce qu'aura dit Emmanuel Macron, vous puissiez intervenir pour nous donner votre sentiment.
Je serai dispo.
Eh ben, merci beaucoup, Eddy. Il est 13h56.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'heure du crime.
Ah, quelle belle musique.
Monsieur Jean-Alphonse Richard, à 14h30.
Ça va, Pascal ?
Et vous ?
Ça va très bien, merci. 14h30, je vous propose ce soir le mystère de la salle de bain. Alors, c'est une enquête, vous allez voir, c'est un petit peu comme le mystère, l'énigme.
C'est même cet après-midi.
Oui, c'est ça, de la chambre.
Parce que vous êtes décalé avant, c'était le soir.
De la chambre jaune, oui, parce que j'écris plusieurs textes en même temps, donc c'est un peu compliqué.
Là, il est 13h56.
Voilà, nous y sommes. Et dans quelques minutes, à 14h30, l'heure du crime, donc c'est le mystère de la salle de bain. Une jeune étudiante, Stéphanie Fauvio, tuée dans son appartement à Lille en 1995. Il va falloir 17 ans pour découvrir son meurtrier. On sait depuis le début que c'est un familier. Il y a plusieurs personnes, mais c'est un jeu comme au Cluedo. On ne sait pas qui a tué Stéphanie. Il va falloir 17 ans pour le découvrir. L'ADN encore qui va se manifester et enfin parler. Et l'homme qui va être arrêté, eh bien, quand on l'a arrêté, il portait un uniforme de gendarme. Voilà.
Vous allez faire à peu près 200 émissions cette année ?
Oui, c'est ça.
Jusqu'au début de juillet, à peu près. Est-ce que vous parlerez, à votre avis, cette année, du mystère von Bülow ?
Ah, j'adore cette histoire.
J'adore aussi.
Et on va la faire. Effectivement, Pascal,
j'adore le mystère von Bülow.
C'est curieux ce que vous dites, parce que c'est une histoire extraordinaire, fascinante, qui a vraiment ému les États-Unis. Et puis, ça reste aujourd'hui encore un mystère, avec des personnages comme on les aime. Le mystère von Bülow, bien sûr, on va le faire.
Est-ce que parfois des auditeurs vous proposent des sujets ?
C'est très fréquent. C'est très fréquent. Ça arrive, là, l'affaire Stéphanie Fauvio, par exemple, c'est une auditrice qui nous a demandé de revenir là-dessus. On a beaucoup de demandes dans ce sens et on les suit parce que c'est intéressant.
Eh bien, merci. 13h58, rendez-vous à 14h30. Ça va être le rappel des titres dans un instant.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
En Ardèche, un appel à témoins après la disparition d'un homme et de son fils dans la région de Saint-Agrève. Plus aucune nouvelle d'eux depuis vendredi, depuis 4 jours donc. L'enfant est âgé de 7 ans, le père de 40 ans. Il circulerait à bord d'une Peugeot 206 de couleur noire. Les gendarmes demandent à toute personne qui les localiserait de ne surtout pas intervenir, mais de composer le 17. 70% d'adultes complètement vaccinés. L'Union européenne a atteint son objectif, annonce la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui ajoute qu'il faut continuer à aller plus loin. Les contrôles fiscaux ont beaucoup moins rapporté à cause de la crise sanitaire. Le montant de l'impôt éludé et des sanctions réclamées par le fisc au titre de l'année 2020 s'élève à 8 milliards 200 millions d'euros contre 11,7 milliards en 2019. C'est l'analyse de la Direction générale des finances publiques dans son rapport annuel. Puis désolé, hein, Pascal, Kylian Mbappé, toujours pas meringué.
Oui.
Il reste 10 heures très exactement avant fin
vous êtes
du
là
mercato.
Jusqu'à quelle heure aujourd'hui ?
Non, bah moi je serais parti avant, désolé.
Ah bon ?
Le Real Madrid et le PSG vont-ils se mettre d'accord avant ce soir sur le transfert de l'attaquant parisien ? Ont-ils envie de se mettre d'accord ?
Je ne sais pas.
Merci Pascal pour cette analyse.
Moi j'étais toujours étonné que le Real puisse sortir 180 millions d'euros pour un joueur qui coûtera 0 euros le 1er janvier. Ça m'étonnait depuis le départ. Je ne comprenais pas trop l'affaire.
Mais le PSG passerait quand même à côté de 180 millions si.
Je suis d'accord avec vous, mais dans 3 mois il ne vaut rien.
C'est pour ça.
Donc c'est étrange. Nicolas Georgerot est toujours dans les couloirs. Il peut venir dans ce studio.
Je vous donne un petit mot de la météo. Demain, il y aura un peu plus de nuages près de la Manche, plus de nuages également en montagne avec un risque d'orage sur les Pyrénées. Mais ailleurs, une fois les brumes matinales dissipées, ce sera... Oui, accrochez-vous bien. Du grand soleil.
Fichtre.
Les températures demain matin, 11 à Vichy, 13 à Chaumont, 15 à Alençon, 16 à Tarbes ou encore 20 à Ajaccio. Et puis les courses, elles, se déroulaient à Dieppe il y a quelques instants. Résultat du prix de la région Normandie. Il fallait jouer le 6, le 8, le 16, le 9 et le 7. Il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Jacques est là, bonjour Jacques.
Bonjour Pascal.
Vous en avez marre Jacques, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Pourquoi ?
Pardon, j'ai pas compris la question, s'il vous plaît.
Je dis vous en avez assez Jacques, pourquoi ?
J'en ai assez. Je vis dans un quartier à proximité de la gare du Nord, à côté de l'hôpital de la Riboisière. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, ma fille a connu la drogue quand elle était gamine. Aujourd'hui, c'est mes petits-enfants qui la connaissent. Mais
qu'est-ce que vous appelez connaître la drogue ? Ils sont consommateurs eux-mêmes ou ils sont dans quartier qui l'a ?
Il y avait de la vente de drogue autour de la gare du Nord, de par la proximité des trains qui venaient d'Amsterdam, etc.
Et d'accord. Bon,
mais ça s'est aggravé, et c'est inquiétant, depuis qu'on a installé en 2016, avec une circulaire de la justice, du ministère de la Justice, à titre expérimental, une salle de shoot, qui est en face de chez moi, qui est dans un quartier où il y a 500 familles, et la mairie de Paris veut réinstaller prochainement dans le quartier des Halles, elle veut installer une dizaine de salles de shoot dans Paris, dont dans le 17e, etc. C'est très inquiétant, parce que la salle de shoot, si vous voulez, avec cette circulaire, a créé une zone de non-droit, c'est-à-dire sur un des trottoirs, la rue Ambroise-Paré, les toxicomanes qui ont de la drogue, de l'héroïne dans la poche pour aller se piquer, ne peuvent pas être appréhendés par la police, parce que sur ce trottoir, ils sont considérés comme des malades qui vont se faire soigner. Voilà. Et sur ailleurs, et les polices démissionnent un peu parce que de toute façon, on va pas intervenir sur un trottoir. Il y a une zone qui est dessinée, etc. Moi, j'ai été agressé 4 fois. J'ai plus de 75 ans. Tout ça, le problème, cette salle de shoot a généré une multiplication de toxicomanes et a fortiori une multiplication de la vente de drogue dans notre quartier avec des équipes rivales de petits dealers qui vendent l'héroïne, la cocaïne et du crack qu'on peut acheter pour 5 euros.
Donc voilà. Cette salle de shoot, elle existe aujourd'hui, hein ?
Elle existe toujours, c'est sa dernière année et actuellement, moi j'avais interpellé Jean Castex sur RTL dans une matinale il y a quelques mois.
Parce que le préfet n'en veut pas a priori de salle de shoot dans Paris, puisque c'est le combat qui existe entre Anne Hidalgo et le préfet l'allemand au sujet du jardin Éole. Et c'est pour ça que le jardin Éole, ce n'est pas nettoyé.
Voilà, exactement. Vous avez dit juste, c'est exactement ça. C'est un conflit entre la droite et la gauche. Mais en ce qui concerne ces salles de shoot, qui accueillent enfin plus ou moins 100, 200 à 300 personnes par jour aujourd'hui, donc ça génère un trafic de drogue qui se déroule dans la rue, qui pose des problèmes, parce que ces toxicomanes sont en manque. Et dans la rue, ils vous agressent pour avoir de l'argent pour acheter leur drogue.
Non, mais la salle de shoot, il y a consensus pour dire que c'est pas forcément la bonne solution. Alors, il y a pas consensus dans tous les camps.
Il y a une salle de shoot qui fonctionne beaucoup mieux à Strasbourg. C'est ce qu'a reconnu le ministre Monsieur Véran. Mais à Paris, au milieu d'un quartier où il y a 500 familles, ça ne marche pas. Parce que c'est une association qui gère ça. Moi, j'ai discuté avec des médecins de l'hôpital Lariboisière, parce que c'est pas parce que la salle de shoot est dans un bâtiment de l'hôpital que l'hôpital est partie prenante. Les médecins considèrent que beaucoup de ces toxicomanes ont des pathologies psychiatriques très graves, qui relève de soins hospitaliers
Évidemment, le crack, c'est terrible. Le crack, c'est la drogue la plus dangereuse, notamment parce que c'est la moins chère. Et elle crée immédiatement une addiction immédiate. Et ensuite, elle crée tout de suite des dégâts psychologiques très importants. Donc, et psychiatrique, c'est ce que vous dites tout à fait. Donc, je comprends que cette salle de shoot, effectivement, elle n'est pas adaptée.
C'est pas la solution parce qu'ils n'ont pas les moyens, si vous voulez, de soigner. En plus, c'est anonyme. Les toxicomanes qui viennent se piquer, c'est anonyme. Ils n'ont pas de suivi. Ils ne seront jamais sevrés s'ils n'ont pas envie d'être
bien
sevrés.
Bien sûr. Non, mais je crois que c'est Rachida Dati ce matin qui propose un internement pour les toxicos.
Et oui, parce que moi, quand j'ai été agressé, c'est toujours des gens qui ont ces pathologies. Ils ont les yeux exorbités. Ils vous empoignent. Ils sont.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais ils sont malades, bien sûr. Le bon sens, c'est sans doute d'interner des toxicos qui sont dans cet état-là. Alors après, il faut avoir les moyens et il faut les soigner. Comme vous le dites, d'ailleurs, ce sont des gens malades et il faut les soigner, comme tous les gens qui sont malades.
C'est ça que j'ai consulté à l'hôpital, parce qu'on est en tact quand même. Disent que ça relève de l'hôpital et non pas d'une association avec du volontariat et tout. Ces malades-là, ils leur font un dossier, ils leur font un suivi médical, comme toute maladie, comme toute addiction, d'ailleurs. Comme toute addiction. Voilà. En plus, on voit les spectacles dans la rue. La salle de shoot, ils ont des bénévoles qui ramassent les seringues dans les rues. Enfin, vous voyez un peu...
Mais vous avez... vous nous avez plutôt convaincus, Jacques. Merci à vous. On est avec Olivier sur la page...
Un message. Alors, quoi faire? Moi, je m'en tiens à la déclaration de M. Darmanin à qui on a envoyé le dossier. Il a dit, pour la drogue, en France, c'est tolérance zéro parce que la drogue, légalement, elle est interdite. Voilà, c'est tout.
C'est toujours pareil, c'est la différence entre les paroles politiques. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, j'ai rien contre Gérald Darmanin, bien sûr, mais tu as tellement dans l'oreille toutes les promesses qui ont été faites sur ce sujet et sur d'autres depuis tant d'années qu'effectivement tu n'y crois plus. Voilà. Merci Jacques de votre témoignage. Olivier, moi je crois en Olivier.
Ah merci, c'est vrai, vous pensez?
Je crois.
Êtes peut-être le seul, Pascal.
Mais non, bah Olivier, quel âge vous avez, Olivier?
J'ai 22 ans.
Eh bien écoutez, vous vous apprêtez à enjamber une carrière dans laquelle vous allez faire merveille, j'en suis sûr.
Ah, ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Bon,
alors comme dirait Raymond DeVos, rebonjour
Raymond.
Pascal.
Ah c'est oui, Raymond DeVos.
Oui, c'est ça.
C'était Guy Bedos.
Ah là là, mince.
C'est un sketch de Guy Bedos.
Il avait une chance sur deux.
Il confond Raymond DeVos et Guy Bedos. Mais bon, il a 22 ans en même temps, madame, messieurs.
Bon,
donc un peu d'indulgence.
Carrière prometteuse. Bon.
Oui.
Sur nos réseaux sociaux, Pascal, Paul écrit: Emmanuel Macron est bien marrant à venir à Marseille alors que ça fait des années que rien ne change malgré les cris de détresse. D'après Maryse, on fait de la lumière sur le trafic présent dans la cité phocéenne. Et n'oublions pas que c'est un phénomène généralisé dans toutes les grandes villes. Loris nous dit: j'ai été obligé de déménager, ça devenait invivable. Pour Yves, c'est le résultat de plusieurs décennies de renoncement, de lâcheté et même de clientélisme qui ont abouti à cette situation délétère. Et on conclut avec Bruno qui écrit: envoyons l'armée sur place, Pascal.
Alors Raymond DeVos, il jouait avec les mots. C'était pas la même chose que Guy Bedos. Par exemple, il avait un sketch sur loi. Vous vous souvenez, loi, O-I-E. Et il disait loi, L-O-I, loi. Parce que c'est le verbe « ouir ». Elle loi, loi. Ce que nous ayons, loi, loi-t-elle?
Bon, j'aurais essayé.
La carrière fut courte.
Ce que nous ayons, loi, loi-t-elle? Et ça, c'était... Il jouait avec les mots. Et Guy Bedos, en revanche, c'était autre chose. Merci. 14h10. La pause. À tout de suite. Elle loi, loi.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je vous préviens tout de suite, vous allez être surpris parce que ce n'est pas l'heure du flash, mais Agnès Bonfillon est de retour. Parce que Agnès, manifestement, vous n'avez pas donné les bons chevaux.
Ah non,
dans les
puis
pronostics.
Alors mille excuses à nos amis parieurs. Je sais que c'est très très important et je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Je suis sincèrement désolée. Je vous donne les bons résultats qui se déroulaient à les courses à Dieppe, hein, résultats du prix de la région Normandie. Les voici, c'est le 4, le 12, le 13, le 11 et le 2. Le 4, le 12, le 13, le 11 et le 2. Je suis confuse.
Mais ça arrive, franchement, tout ça n'est pas très grave. Donc vous aviez donné une mauvaise arrivée.
Bah écoutez, oui, visiblement,
alors,
je me suis un
petit peu emmêlée. Si, effectivement, il y a un auditeur d'RTL qui vous a écouté et qui pensait avoir gagné et qui... Pardonnez-moi, c'est la climatisation. Et qui est allé acheter dans des magasins.
Je ne peux pas vous rembourser, hein, je suis désolée. Si. Ne m'envoyez pas la note. Si.
C'est Agnès Bonfillon qui remboursera. Il est 14h13.
Merci,
merci Agnès.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Bah, ça fait partie de ces phrases toutes faites. J'ai ouï dire. J'ai ouï dire qu'il y avait des choses qui entraient par une oreille et qui ressortaient par l'autre. Écoutez, franchement, j'ai jamais rien vu entrer par une oreille et encore moins en sortir. Hein, il y a encore en littérature, on voit ça évidemment, dans Rabelais. Nous lisons que Gargamel a mis Gargantua au monde par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses, dites-t'en. Des cris et des chuchotements, hein.
Alors c'est le sketch de Raymond Devos dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis si nous avons le petit passage loi, on pourra l'écouter bien sûr. Nous sommes avec Gaël. Bonjour Gaël. Puisque...
Et bonjour Pascal.
Et merci, nous sommes toujours sur Marseille. Le président de la République va être à Marseille demain. Il va être à Marseille pour proposer de nouvelles choses pour la drogue, la sécurité, les écoles. Et vous-même peut-être avez-vous un avis?
Je dirais plutôt une constatation. Tout à l'heure, il dit, on a le même âge, il est de 81, moi je suis de 83. Il a dit que ça a commencé à partir, excusez-moi un mot, en sucette, dans les années 2000.
Oui.
Mais
c'est
si on va parler à M. Chirac, peut-être même un peu avant.
Oui.
Mais si on va parler à M. Chirac, a fait une loi pour interdire, pour dire que l'armée, en fait, était professionnelle et plus obligatoire, à partir des enfants qui sont nés à partir de 1980. Et comme par hasard, dans les années 2000, tous les enfants qui sont nés en 1980 étaient majeurs, donc n'étaient pas obligés de faire l'armée.
Non, voilà. Mais là où vous avez raison...
Je pense que l'armée est à cadrer des personnes. Moi, j'ai un grand frère qui est beaucoup plus âgé que moi, a fait l'armée, ça l'a cadré. J'ai des amis qui ont mon âge, qui ont fait l'armée. Ils avaient envie d'y aller, donc ils ont fait l'armée. Ils ont dit que ça les a cadrés. Ils ont dit, je pense que si on n'aurait pas fait l'armée, on aurait fait des bêtises parce qu'ils habitaient dans des quartiers. Et si, voilà. Donc je pense que le fond du problème, en fait, ce n'est pas forcément de mettre de l'argent. En plus, votre premier intervenant, là, à midi et demi, il disait, on s'en fout de l'argent, il faut construire des prisons. Mais bien sûr, il faut construire des prisons. Et je pense qu'aussi, il faut arrêter de dire, on va sortir de l'argent. L'argent, il le sort d'où? En restant poli, je vais rester poli, je vais rien dire. Mais ils sont pas magiciens. Donc je pense qu'en fait, il faut arrêter de cacher les choses et remettre l'armée. Le jour où il y aura un homme politique...
Vous ne pouvez pas remettre le service militaire, mais là où vous avez raison, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas imaginé les conséquences de l'arrêt du service militaire et notamment les conséquences collatérales. Parce que le service militaire, il n'est pas fait pour éduquer évidemment les jeunes gens, mais en même temps, il le faisait, curieusement. Donc il y avait un effet... qui était très positif, pour la raison que vous venez d'expliquer.
Ça cadrait. Mais
vous pouvez... Oui, ça cadrait. Vous avez parfaitement raison. Et ça permettait d'apprendre l'autorité à certains. Mais vous n'allez pas remettre le service militaire, c'est impossible, Gaël. D'abord, ça coûte cher, mais c'est impossible, c'est plus l'époque. C'est impossible. Impossible, impossible.
Et ça apprenait des métiers.
Je suis d'accord avec vous. Et puis là, tu discutais pas. Et puis t'allais au trou. Ah oui. Et si t'es pas content, parce que t'étais en dehors de la société en fait. Tu passais sous l'autorité militaire. Donc on pouvait aussi, c'était dur. Hein, parfois on pouvait t'humilier. Pourquoi pas te taper dessus, recevoir des coups, aller en prison, quoi, la prison militaire. Donc il y avait effectivement, tu te taisais quoi. Tu commençais à apprendre.
Je pense que ça a été une plus grosse erreur qu'a fait malheureusement M. Chirac.
C'est possible.
Puis à son âme, mais ça a été une des plus grosses erreurs qu'il a fait pendant ces deux mandats.
Merci Gaël. Est-ce qu'on a loi Hôtel?
Bien sûr.
Allons-y.
Loi. Et loi. Ce que nous aurions loi Hôtel.
Donc voilà, jouer avec les mots. Raymond Devos, c'était formidable. Il est 14h17, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Beaucoup parlé de Marseille aujourd'hui. On va peut-être terminer avec Luc. Bonjour, qui travaille dans l'hôpital de Strasbourg à côté d'une salle de shoot, puisque ce problème de la drogue est un problème qui nous fait réagir. Bonjour Luc. Luc ?
Oui, bonjour.
Bonjour Luc. Vous travaillez donc à l'hôpital de Strasbourg à côté de la salle de shoot. Et la salle de shoot à Paris, le préfet n'en veut pas, Madame Hidalgo en veut. Quel est votre sentiment ?
Alors, en fait, la salle de shoot de Strasbourg, je veux juste revenir sur ce que disait votre auditeur précédent, qui disait qu'elle marchait bien, et il a tout à fait raison, elle marche très bien, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, elle est en plein milieu de l'hôpital de Strasbourg, qui est un peu une enclave au sein de la ville, et en fait, elle est sécurisée par le service de sécurité de l'hôpital. Donc en fait, il y a pas besoin d'intervention policière ou autre chose pour que cette salle de shoot, elle marche. Et elle marche même tellement bien que en fait, ça va même devenir plus qu'une salle de shoot, ça va même devenir un foyer, puisqu'ils vont aménager au premier étage de cette salle de shoot des chambres pour que les toxicomanes puissent même dormir sur place pour éviter les allées et venues et les différents problèmes que ça peut engendrer. Donc c'est normal, donc en fait à Paris elle marche pas, puisqu'elle est au plein cœur d'une ville qui vit et qui a besoin d'être sécurisée, alors qu'à Strasbourg, et je pense que dans d'autres villes aussi, ils ont été plus intelligents aussi, je pense, ils l'ont mis au sein d'un endroit où c'est déjà sécurisé, où il y a déjà tout ce qu'il faut pour les accueillir et tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente en sécurité, que ce soit les employés de l'hôpital et les toxicomanes qui font des allées et venues sans que même personne s'en aperçoive en fait.
Bah écoutez, c'est un témoignage qui pouvait nous intéresser et qu'on entend. Luc, c'est vrai qu'il y a très peu de salles de shoot en France. Hein.
Non, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et déjà, il n'y en a pas beaucoup qui marchent, parce que la population n'est pas forcément ravie d'avoir une salle de shoot à côté de chez soi, que je peux comprendre. Et c'est pour ça que Strasbourg peut être un petit peu pris comme un modèle. C'est rare, mais il faut le dire. Parce que finalement, ils ont été très intelligents de l'avoir mis au sein de l'hôpital, en fait. Tout simplement, c'est juste ça. Il faut juste le mettre dans un endroit qui est déjà fait pour ça, qui est déjà prêt à accueillir des gens qui ne sont pas forcément en grande forme. Et voilà. Simplement.
Ben, merci beaucoup, Luc. Un mot de Franck sur Mbappé pour terminer, parce que ça a été un feuilleton depuis une semaine, et manifestement Mbappé va rester à Paris. Je vois les titres des chaînes info parti pour rester. C'est une expression qui est souvent utilisée. Ça vous réjouit?
Oui, oui. Ça me réjouit pour la France, c'est bien. Malheureusement, c'est pas Mbappé qui va partir. Malheureusement, c'est un Rennais qui part. C'est Cavavinga qui vient de signer.
Mais j'ai vu pour 30 millions d'euros, non?
Hors bonus. On est à 40, on doit être à 45, je crois, avec bonus.
Et il part pour le Real Madrid.
Oui, il a signé hier soir à minuit, je crois, il me semble. C'est ce que j'ai vu sur le site du Stade. Et il a signé, ouais.
Ben, c'est terrible pour les Rennais. Alors, le grand public ne connaît peut-être pas son nom, mais c'est vrai que c'est un excellent joueur et c'est surtout. Un espoir, mais ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de Rennes.
Bah oui, parce que surtout qu'ils en ont dépensé pas mal cette année avec tous les joueurs qu'ils ont achetés. On arrive au sixième recrutement qu'a recruté Rennes. Ouais. Mais bon, en parlant d'Mbappé, je pense que Mbappé, voilà, pour le championnat français, je pense que c'est bien qu'il soit resté. Bon, malheureusement, je pense qu'il va partir libre. Il va partir, lui, partir libre plutôt l'année prochaine. Mm-hmm. Malheureusement, je pense que pour le Paris Saint-Germain, ça va être dommage pour eux, sauf s'ils re-signent, mais j'y crois pas trop. Mais bon, voilà. Espérer pour lui qui gagne la Ligue des Champions avec les attaques qu'ils ont entre Messi, Neymar, Di Maria, ça fait une équipe sensationnelle.
Oui, ça c'est sûr qu'on peut imaginer qu'on n'est pas loin d'une des meilleures équipes européennes. Oui. En tout cas, tout échec sera plus difficile à faire passer pour Paris Saint-Germain. Et je me demande même, je crois que c'est Florian Gazan qui disait ça, si le PSG peut perdre un match de Ligue 1 cette année. Je crois que Florian a pris le pari que le PSG ne perdrait pas un match de l'année.
Moi, j'en ferai le pari aussi avec lui, parce que bon, il vient à Rennes au mois d'octobre, je crois, si j'ai regardé sur le calendrier, je crois. Mais je pense qu'ils vont être très très durs à battre. Bon, ils ont eu chaud quand même là, depuis le début du championnat, mais c'est normal le temps qu'ils y certains.
Oui, quoi, chaud.
On va dire que voilà. Et bon, après, mais ils vont être très très durs à battre. Je pense que Florian, il a tout à fait raison. Ils vont être très très durs à battre cette année. Et après, maintenant, c'est eux ce qui vise surtout. Je pense que c'est la Ligue des Champions. La priorité, c'est eux, parce qu'ils l'ont pas gagné avec tous les investissements qu'a fait le Paris Saint-Germain. Je pense que j'espère pour eux qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions, parce que
merci.
Je pense qu'ils ils vont encore prendre un bouillon de 15 heures, comme dire l'autre.
Merci Franck et Florian Gazan qui avait assuré la présentation de On refait le match. Mais samedi, c'est l'ami Christian Olivier qui revient, le titulaire du poste. Christian, c'est samedi à 18h30. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Je suis plutôt séduit par lui, pour tout vous dire. J'aime bien la manière dont il s'exprime. Je trouve qu'il y a une certaine hauteur, même une certaine philosophie. Il y a quelque chose d'agréable. L'homme qu'il est peut être séduisant.
Trop de compliments pour ma personne, vous êtes trop bon avec moi, ami Pascal. Mais en tout cas, pendant les auditeurs à la parole, un autre nom vous a fait réagir aujourd'hui.
La chute de Didier Raoult, il sera ce soir un médecin retraité à 69 ans, il a atteint la limite d'âge.
Il aura été l'une des figures de cette pandémie mondiale, sa blouse, sa barbe et ses conférences de presse improvisées dans son bureau.
La nouvelle direction de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille n'a pas souhaité le prolonger. Didier Raoult est-il un génie incompris ou un gourou mégalo ?
J'ai fait un truc en disant on a le droit d'être intelligent. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être intelligent dans ce pays. Hein. Je sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui tue pas. Quoi.
La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement, c'est de la science-fiction.
Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas.
Didier Raoult va-t-il vous manquer ? Que représente-t-il pour vous ? Tiens, Charles par exemple.
Je pense que c'est un des infectiologues les plus doués que l'on ait en Europe.
Philippe, d'autres compliments ?
On n'a pas grand-chose à lui reprocher, quoi, Didier Raoult.
Hey, un autre Philippe nous a appelé. Un message d'amour également ou pas ?
Bon, bah moi, en ce qui concerne le professeur Raoult, j'ai pas d'animosité contre lui. Je pense que c'est un scientifique de renom hein, qui a fait ses preuves et je vois pas pourquoi on jette l'opprobre sur ce professeur sans oreille. En quoi un professeur Raoult serait moins crédible qu'un Delphrécic à 73 ans ?
Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons basculé au XXe siècle.
On est le 31 août 1997.
Eh ben non ! Bon, pour vous faire plaisir, Pascal, restons en 1997. Quel était l'un des tubes cette année-là ? Gala, Free From Desire. Oui, Jean-Alphonse Richard, un commentaire ?
Ah, quelle belle musique.
Ah bah, je vous en prie, si on peut vous faire plaisir. Sinon, nous aimons nous dire bonjour plusieurs fois dans l'équipe. Exemple, à 13h30 tout à l'heure.
Que va-t-il annoncer ? Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour.
Pourquoi bonjour ?
Rebonjour, mais on peut se redire bonjour.
Oui,
pourquoi
il n'y
a pas de souci. Vive la convivialité. Un dernier mot, Pascal, avant de se quitter.
Et loi, loi. Ce que nous ayons, loi, loi-t-elle ?
Eh bien, merci pour tout. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson pour le professeur Didier Raoult.
Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais.
Elle est mélancolique, cette chanson. Jean-Alphonse Richard est entré dans le studio.
Je suis là.
Vous le retrouvez pour l'heure du crime. Et nous vous donnons rendez-vous demain.